jour, de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, à l'écoute de nos rediffusions estivales vues d'en haut aujourd'hui, carrément du sommet des arbres, depuis la canopée, autour d'une aventure hors norme, celle du radeau des Cimes. 30 ans d'exploration des canopées forestières tropicales, à bord d'un radeau laboratoire, un assemblage de pontons reliés par un filet délicatement déposé à l'aide d'engins dirigeables et gonflables à la cime des forêts tropicales d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie. Une dizaine d'expéditions hallucinantes qui ont permis de découvrir, de recenser, d'étudier la formidable biodiversité visible uniquement d'en haut des forêts tropicales. Mais qui a bien pu avoir l'idée et l'énergie de monter une telle aventure scientifique, humaine, technologique et écologique qui renoue de façon ludique avec les premières expéditions naturalistes tout en alertant sur la formidable biodiversité des canopées forestières équatoriales. À l'origine de ces explorations inédites, quatre hommes. Le célèbre botaniste des forêts tropicales Francis Allais, l'architecte du radeau des Cimes et autres engins gonflables Gilles Ebersold et le botaniste Olivier Pascal, grand organisateur d'expéditions naturalistes, notamment pour le Muséum d'Histoire Naturelle. Sans oublier le formidable pilote de toutes ces expéditions, Dany Clayet-Marel. Tous les quatre ont publié aux éditions Actes Sud un superbe ouvrage abondamment illustré qui retrace la genèse et les explorations du radeau des Cimes. C'est à cette occasion que nous les avions rencontrés le 25 janvier dernier. Autour de la question « Pourquoi remonter sur ce radeau des Cimes ?» Bienvenue, comme si vous y étiez, extrait d'un documentaire réalisé in situ tout là-haut en 1998 par Antoine de Maximi.
C'était une espèce d'hybride entre un zodiaque et une montgolfière. Vous imaginez une plateforme en boudin gonflé avec des filets au milieu. C'était carrément un énorme radeau des Cimes qui faisait plus de 600 mètres carrés. Vous imaginez, hein, 600 mètres carrés, c'est vraiment grand. Et il y avait un dirigeable à air chaud, comme une montgolfière, mais dirigeable, qui emmenait déposer le radeau sur la forêt. Et le dirigeable, c'était vraiment un énorme truc. Il faisait 35 mètres de long, il pouvait emporter 6 personnes. Et c'était génial, quoi. Tu voyais décoller ce truc qui emmenait l'énorme plateforme, qui allait au-dessus de la forêt, qui la déposait délicatement. C'est pas comme si on était venu avec un hélicoptère qui aurait tout soufflé, il n'y aurait plus de moustique, plus d'insectes, plus rien. Non, c'était déposé extrêmement délicatement, et puis le dirigeable s'en allait. Et ça a été une expédition absolument géniale, parce que on découvrait tout.
Tout découvrir, c'était bien ça l'idée, votre idée, Francis Allais, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes ravis de recevoir le célèbre botaniste que vous êtes, le spécialiste des arbres et de la canopée des forêts tropicales, que vous avez été d'ailleurs l'un des premiers à étudier de toutes les manières possibles, à dessiner aussi, à nous alerter également, à la fois sur l'importance et l'étendue de cette biodiversité méconnue et déjà menacée. Pourquoi Francis Allais avoir tenu à aller explorer de cette manière-là, avec ce radeau des Cimes, la canopée de ces forêts équatoriales, tropicales, en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie?
Parce que nous savions depuis 1982, par un collègue américain, Terry Irwin, que l'essentiel de la biodiversité mondiale était dans les canopées des forêts tropicales. Lui-même n'était pas monté, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de système commode pour monter. Il a mis sur le sol un canon à gaz toxique qui tuait les bestioles qui étaient là-haut et qu'il recueillait au sol sur des draps blancs. Pas très élégant, mais enfin, à l'époque, on ne pouvait pas faire mieux. Et grâce aux travaux de Terry Irwin, la biodiversité mondiale, elle est passée de 3 millions à 30 millions, un facteur 10.
Ah, c'est complètement fou. C'est-à-dire qu'au fond, la majorité de la biodiversité, notamment flore, faune, insectes, est dans la canopée des forêts tropicales.
Oui.
Alors, comment fait-on pour explorer cette canopée des forêts tropicales, territoire inconnu? Et c'est là que vous intervenez, Gilles Ebersold. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en duplex avec nous depuis Limoges. Vous, Gilles Ebersold, vous êtes l'architecte du radeau des Cimes, un architecte navigateur qui s'intéressait beaucoup aux structures gonflables. C'est comme cela qu'est née cette idée folle de construire un radeau des Cimes?
Ben oui, effectivement, quand on est architecte, on s'intéresse à la construction. Et quand on s'intéresse à la construction, on s'intéresse au terrain sur lequel on construit. Donc, à l'époque où j'étais étudiant, Je faisais des recherches un petit peu expérimentales. Et je me suis dit, mais voilà, on construit sur terre, on construit sur l'eau aussi, puisqu'on fait des bateaux. Mmh. Et puis finalement, pourquoi est-ce qu'on ne construirait pas aussi sur la canopée, sur les forêts? Et est-ce que quelque part, une forêt, ça ne ressemblerait pas un peu à un océan? Est-ce que ce n'est pas une étendue qui, vue du haut, serait assimilable à une étendue d'eau? Voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai lancé cette recherche sur la capacité de flotter au-dessus des arbres avec donc le dispositif radeau des cimes. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je me suis engagé sur cette voie.
C'est ça, flotter au-dessus des arbres. Il a tout de même eu beaucoup, beaucoup d'essais avant de réussir. Vous ne vous êtes jamais découragé. Heureusement, rappelons aussi que vous travaillez avec un pilote hors norme de dirigeable, Dany Clayet-Marel, sans qui toute cette aventure du radeau des cimes n'aurait pas été possible. Il a fallu sa dextérité de pilote, son ingéniosité pour que ça fonctionne, pour déposer aussi délicatement que possible, sans abîmer, sans gêner le moindre petit insecte, un tel radeau des cimes au sommet de la canopée. Et puis, il a fallu bien sûr organiser ces expéditions. 30 ans d'expéditions forestières de la canopée dans la bande intertropicale. Et c'est là que vous avez rejoint l'aventure, Olivier Pascal. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en duplex avec nous depuis Montpellier. Vous êtes dispersé aux quatre coins de la France. Vous êtes botaniste, Olivier Pascal, de formation, hein, spécialisé vraiment dans l'organisation de ces grandes expéditions naturalistes de la fin du XXe, du début du XXIe siècle, que ce soit pour le Muséum National d'Histoire Naturelle ou avec votre ONG Bionatura. Vous avez évidemment, c'était une évidence pour vous de plonger corps et âme, j'ai envie de dire, sur le radeau des cimes, malgré ou peut-être à cause de tous les défis qu'exigeaient ces expéditions interdisciplinaires.
Oui, alors bon, c'était effectivement très attractif, mais après, je pense que j'étais meilleur organisateur que botaniste, donc ça m'a permis de trouver une voie assez étroite, mais bon, comme il n'y avait personne d'autre, du coup, on n'est forcément pas mauvais. Et après, ben oui, monter ces opérations, ça a été une fierté, grâce à Francis, Gilles et Dany, puisqu'ils sont les initiateurs de cette aventure. Et puis moi, j'étais un jeune étudiant de Francis dans son laboratoire à Montpellier. Donc voilà, ils m'ont embarqué dans cette aventure. J'ai participé à celle de 89, puis après j'ai co-organiser les opérations à partir de 91.
Des aventures toujours interdisciplinaires hein, qui rassemblaient des chercheurs de toutes les disciplines. Vous avez, Francis Allais, invité sur le radeau des cimes tous les chercheurs qui pouvaient être intéressés par cette fantastique biodiversité.
On faisait une annonce pour faire la publicité de l'opération et je recevais des candidatures du monde entier. Il a fallu les trier parce qu'il y en avait beaucoup trop. Mais on a tout de même gardé beaucoup de monde et de beaucoup de pays. Ça a attiré énormément de gens.
Ah, faut reconnaître que c'est incroyable ce dispositif. On va peut-être le décrire parce que c'est à la fois un laboratoire de recherche en haut, sur la canopée, à la cime des arbres, mais c'est aussi un lieu de vie. Comment est-ce qu'on pourrait décrire, peut-être c'est à l'architecte que je vais demander ça, à Gilles Ebersold, comment est-ce qu'on peut décrire alors ce radeau des cimes, c'est la manière dont il est posé si délicatement sur l'océan, comme vous dites, de la canopée?
Alors, oui, alors soyons un petit peu plus précis peut-être, ouais. Parce qu'on peut y vivre, certes, on va plutôt dire on peut y bivouaquer, passer des nuits un petit peu étranges là-haut, mais on a toujours, si vous voulez, c'est à considérer comme une station avancée. Il y a toujours un camp de base, il y a toujours un endroit où on peut, assurer les fonctions minimales de la vie en forêt tropicale. Et puis, à proximité de ce camp de base, eh bien, il y a effectivement cette base avancée, ce radeau des cimes qui est posé sur la canopée. Alors, le matin, on part travailler, on revient le soir, ou on dort sur place et on a le bénéfice au matin d'avoir une fraîcheur matinale acceptable et puis surtout des capacités d'observation très intéressante. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. C'est un peu un duplex, là aussi, on va dire, entre un camp de base sur lequel on a toutes les fonctions et puis cette station avancée qui, du reste, a été complétée par d'autres équipements annexes ou complémentaires à ce radeau des cimes.
Il y a eu pas mal d'essais. Hein. Il y a eu le radeau des cimes, il y avait une sorte de luge. Enfin, il y a eu énormément d'essais incroyables pour arriver à faire ce que vous vouliez, Francis, aller explorer cette biodiversité sans l'abîmer.
Oui, c'est vrai qu'on a eu tout un tas d'engins, des très gros, dont Gilles a parlé, mais des plus petits, comme l'Icos, ou la bulle des cimes, ou la luge, des cimes, ou l'étoile des cimes, etc. Enfin bref, on a toute une panoplie d'engins maintenant.
Et qu'est-ce que vous avez ? Alors, vous travaillez plus particulièrement sur les feuilles, sur les végétaux, sur les plantes, sur les arbres. Qu'est-ce que vous avez ? Enfin, vous avez découvert un nombre incroyable d'espèces et travaillé dessus. Qu'est-ce qui vous a marqué ?
Je ne voudrais pas mettre la botanique en premier. Mm-hmm. Je voudrais parler des VOC.
Les VOC.
Les molécules volatiles qui s'en vont dans l'atmosphère à partir des grands arbres.
Oui.
Une expédition au Cameroun, 91. Si je ne me trompe pas, avec des collègues de l'Institut Max Planck de Mayence, ils ont mis en évidence que chaque grand arbre émettait dans l'atmosphère des molécules volatiles dont la composition biochimique était propre à l'espèce d'arbre considérée. Voilà, c'était déjà très intéressant. Mais à l'époque, nous ne savions pas du tout à quoi ça servait, ces VOC. On constatait l'émission, c'est tout. 10 ans, 12 ans après, je crois, au milieu du bassin amazonien, l'Institut de recherche sur l'Amazonie a mis en évidence la raison d'être de ces molécules-là. Elles font tomber la pluie.
Extraordinaire.
Les arbres appellent la pluie. Voilà. Et pour qu'il y ait de la pluie, il faut des germes matériels. Et les molécules de VOC, c'était ça.
Comment les arbres appellent la pluie et comment vous avez pu le découvrir, vous en rendre compte sur le radeau des cimes. Et si le plus difficile finalement, j'ai envie de dire pour vous tous, hein, pour vous quatre et pour tous les chercheurs et chercheuses qui vous ont accompagnés, n'avait pas été non pas de monter en haut sur le radeau des cimes, mais plutôt d'en descendre. Je vous propose un nouvel éclairage vu du haut de la canopée, c'est celui du réalisateur Luc Jacquet. Après La Marche de l'Empereur, Luc Jacquet a réalisé un film magnifique avec vous, Francis Allais, Il était une forêt, qui lui a donné un fabuleux vertige. On l'écoute.
Le vrai gros problème, c'était de nous faire redescendre, en fait, parce qu'on n'avait pas du tout envie de redescendre.
Une
fois que vous avez
là-haut.
Goûté, je dirais, à l'orgasme de la canopée, c'est un peu fort, mais... je vous assure qu'il se passe quelque chose. Quand vous débarquez en haut d'un Moabi, le plus grand arbre d'Afrique, le plus bel arbre d'Afrique, enfin, en tout cas, selon moi, et quand vous débarquez là-haut, c'est vraiment une sensation de bien-être extrêmement profond. Vous avez l'impression d'être à la fois dominant, vous voyez tout, mais protégé puisque vous êtes dans la paume de l'arbre. Et vous êtes bien, il ne peut rien vous arriver quand vous êtes là. Je crois qu'il y a peut-être un vieil atavisme là au fond de nous qui dort et qui demande qu'à se révéler et qui émerge comme ça à notre grande surprise quand on arrive là-haut. Je crois qu'il y a aussi il y a une connexion d'épiderme à écorce, quoi, quelque part. Parce que quand vous êtes dans l'arbre, vous le touchez, vous êtes là, et je ne sais pas s'il se passe quelque chose, c'est de l'intuition, c'est de l'énergie, on racontera ce qu'on voudra, mais il y a un moment, enfin, j'ignore comment ça se fait, mais en tout cas, je vous assure qu'on est bien là-haut. Quoi.
On est bien là-haut, vous confirmez, Francis Allais, d'épiderme à écorce. C'est joli, ça. Ah non, vous dites pas ça.
C'est simplement que c'est le lieu d'origine de l'espèce humaine. Nous sommes nés dans les canopées tropicales il y a 300 000 ans, voilà, en Afrique de l'Est. Et donc, remonter là-haut, moi, à chaque fois, j'ai l'impression de revenir non pas à mon lieu d'origine personnelle, bien sûr, mais au lieu d'origine de mon espèce zoologique, l'espèce zoologique à laquelle j'appartiens.
De l'espèce humaine.
Voilà. Eh bien... C'est important de se retrouver dans le lieu de naissance de notre propre espèce. Et je crois que je n'ai pas été le seul, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques, notamment aux États-Unis, qui ont décrit ce sentiment-là.
Olivier Pascal, vous partagez aussi ce sentiment-là quand on est en haut d'un arbre, en haut de la canopée et dans ce fabuleux radeau des cimes ?
Tout à fait, oui. Enfin, après, le seul problème, c'est que le reste de la vie devient une grosse parenthèse, quoi. Donc, on a un petit peu du mal à se réacclimater au monde réel. Et voilà, c'est vrai qu'on vit, au bout d'un moment, on vit un peu que pour ces moments-là. C'est un peu une drogue, donc c'est sûr que le reste en souffre.
Gilles Bersold, vous aussi, vous avez eu ce sentiment-là. Vous compariez, en tant qu'architecte au début, la canopée à un espèce d'océan. Est-ce qu'aussi, quand on monte comme ça, là-haut, on se rapproche à la fois de nos origines, mais aussi peut-être on atteint d'autres parts de soi, peut-être, ou un lien plus fort avec le cosmos, carrément ?
Oui, mais peut-être qu'il suffit simplement de décrire la façon dont on, finalement, on accède à cette canopée.
Oui.
Parce que quand vous avez ce radeau qui est posé en haut des arbres, ou d'autres structures d'ailleurs, que ce soit l'Icos ou peut-être même la bulle des cimes, quand on arrive finalement là-haut, dans la canopée, en tout cas pour les structures non volantes, eh bien, on doit d'abord s'affranchir de la hauteur des arbres. Donc on doit progresser verticalement sur une hauteur de 30 à 50 mètres, et puis tout d'un coup, ben en fait, on débouche là-haut et on découvre un nouveau monde, un peu comme de façon inverse, quand on nage, et si on va sous l'eau, ben on découvre une chose qu'on ne voit pas, vous voyez.
Oui.
Donc il y a cette espèce de surprise de déboucher sur un milieu radicalement différent, et là, contrairement à ce qu'on ressent en sous-bois, eh bien, on perçoit des odeurs, il y a du vent, il y a une densité d'humidité qui est très différente, c'est sec, vous voyez. Donc tout ça, c'est des sensations qui réveillent en nous, effectivement, tous ces sentiments auxquels vous faites allusion. Donc c'est ce changement véritablement de milieu qui occasionne ce grand plaisir d'être sur la canopée.
Francis Allais, quelle est la particularité, outre la biodiversité insensée qui niche dans cette canopée des forêts tropicales du monde, quelle est la particularité de ces forêts-là et précisément de la canopée, la différence entre en haut et en bas.
En bas, ça n'a pas grand-chose à voir.
Et c'est ça. Hein.
En bas, il y a 0,1% de l'éclairement total, donc très peu de lumière, il faut que l'œil s'habitue. L'œil s'habitue très bien, mais enfin, ça reste très sombre. Et donc, il y a très peu de plantes. Et donc, il y a très peu d'animaux. Tandis que quand vous êtes là-haut, il ne faut pas perdre de vue que c'est l'endroit où la biodiversité est la plus forte au niveau mondial. C'est le milieu le plus vivant du monde. Alors, ceux qui n'aiment pas les choses vivantes, je leur déconseille l'expérience.
C'est ça, on est entouré d'insectes, d'oiseaux.
Le concert est tout à fait étonnant. Il y a un moment un peu calme dans la journée, c'est entre midi et 14 heures. Il fait trop chaud. Mais dès que le soleil se calme un peu, les cigales, par exemple, se mettent en route. Il y a une vingtaine d'espèces de cigales dans ces forêts. Et dès que le soleil descend, il y a un concert formidable des rainettes arboricoles, des petites grenouilles qui vivent en haut des arbres.
Qui vivent tout là-haut.
Oui. Oui.
Et est-ce que, alors c'est très différent des forêts qui ne sont pas tropicales, mais est-ce que entre toutes ces forêts tropicales, vous avez exploré à la fois sur le continent africain, en Amérique du Sud, en Asie, est-ce qu'on retrouve un peu les mêmes espèces, les mêmes particularités ?
Non. Non, c'est très bizarre. C'est ce qu'on appelle le paradoxe des forêts tropicales.
Oui.
C'est la même forêt, c'est les mêmes gros arbres, les mêmes lianes, les mêmes lumières, les mêmes odeurs, les mêmes... mais tout est différent. C'est ça le paradoxe. Il n'y a pas une seule espèce animale ni végétale qui soit la même sur tous les continents tropicaux.
Vous expliquez ça d'une manière ou d'une autre ou c'est
Les continents sont séparés depuis longtemps, donc l'évolution s'est faite différente dans chaque continent, donc le résultat est forcément différent.
Et est-ce que vous avez tout de suite eu ce sentiment aussi de l'urgence à la fois de découvrir, d'observer, de recenser peut-être, mais aussi de l'urgence qu'il y avait à sauvegarder, à alerter sur cette immense biodiversité méconnue et peut-être
négligée.
Elle est en voie d'être détruite.
Ne me faites pas parler de ça parce que je vais être très discourtois.
Ouais.
Pour moi, détruire une forêt, c'est un crime contre l'humanité. Mmh. Nous sommes arrivés au moment où on ne peut plus se permettre de continuer ce genre de choses.
Vous l'avez senti très tôt.
Oui, mais pas au point où c'est devenu il y a 2 ans et maintenant c'est de pire en pire. Voilà.
Autour de la question, pourquoi justement nous arrêter et même remonter sur le radeau des cimes au-dessus de la canopée ? Réponse musicale tout de suite sur RFI du groupe Des yeux de la tête et le morceau s'intitule « Sous la canopée ».
Allons-nous perdre dans la forêt tant qu'il en existe encore, toi et moi sous la canopée. Ton corps brûle et brûle mon corps. Allons-nous perdre dans la forêt tant qu'il en existe encore, toi et moi sous la canopée. Ton corps brûle, brûle mon corps. Sais-tu qu'ils ont rasé les chaînes de nos premiers chemins, celui duquel t'étais tombée amoureuse au creux de mes mains. Quand j'ai aperçu, un peu fier, ta culotte pour la première fois. Je m'en souviens comme ma première bière, ma première gorgée de toi. Allons-nous perdre dans la forêt, tant qu'il en existe encore, toi et moi sous la canopée. Allons-nous perdre dans la forêt, tant qu'il en existe encore, toi et moi sous la canopée, ton corps brûle, brûle mon corps. Tu sais qu'il n'y a plus d'eau dans notre rivière, celle où l'on nageait nu, s'embrasse sous le sagittaire, et la lune pour seule héritière, tous les loups du coin aux abois. Je m'en souviens comme ma première chair, ma première bouchée de toi. Allons-nous perdre dans la forêt, tant qu'il en existe encore, toi et moi sous la canopée, ton corps brûle, brûle mon corps. Allons-nous perdre dans la forêt, tant qu'il en existe encore, toi et moi sous la canopée.
Allons-nous perdre dans la forêt tant qu'il en existe encore, sous la canopée, avec les yeux de la tête sur RFI, et même au-dessus de la canopée, autour de la question pourquoi remonter sur le radeau des cimes. Nous sommes en compagnie du botaniste des forêts tropicales Francis Allais, de l'architecte de ce radeau des cimes hors norme Gilles Ebersolt, et d'Olivier Pascal, organisateur de ces explorations des canopées forestières équatoriales, qui sont réunies, ces expéditions, dans le radeau des cimes, un superbe ouvrage abondamment illustré, 30 années d'exploration des canopées forestières équatoriales, paru aux éditions Actes Sud, et dans lesquelles, Francis Allais, vous revenez évidemment, au-delà de l'exploit, au-delà des défis de cette mission scientifique exceptionnelle, vous revenez, que ce soit en Guyane, au Cameroun, au Gabon, Madagascar, Venezuela, Bornéo, au Panama, au Laos, sur les découvertes que vous avez faites, de nouvelles notamment, espèces de plantes, de lianes, d'arbres, de plantes épiphytes aussi.
C'est vrai, on a découvert des quantités d'espèces nouvelles. On nous a demandé ça souvent. Les journalistes nous demandaient si on avait trouvé des espèces nouvelles. Ça nous fait rigoler, parce que la difficulté là-haut, c'est de trouver une espèce qui soit déjà connue. Bon, mais c'est pas l'essentiel, ça. Oui. Vous savez, on a déjà tellement d'espèces.
C'est quoi l'essentiel ?
Eh bien, l'essentiel, c'est le fonctionnement de tout ça. Par exemple, qu'il y a plus de molécules actives dans le haut des arbres qu'en bas. Et donc, si on veut découvrir des médicaments nouveaux, c'est pas en s'attaquant aux feuilles du bas, mais aux feuilles du haut qu'il faut travailler. Voilà, c'est des choses comme ça qui m'intéressent vraiment beaucoup plus que d'allonger la liste déjà longue des espèces.
C'est ça, c'est de pouvoir vraiment travailler là-dessus. Olivier Pascal, vous qui organisiez toutes ces expéditions, c'est vraiment ça, c'était vraiment ça le but aussi, de pouvoir documenter un peu et se rendre compte que c'est là-haut que ça se passe et que c'est là-haut qu'il faut aller et retourner.
Oui, évidemment. Enfin, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Francis. Je pense que le catalogage du vivant reste à faire et que c'est un enjeu qui reste important, juste par curiosité. Mm-hmm. Savoir ce qui vit avec nous, ça me paraît essentiel. Mm-hmm. Et après, l'organisation de ces missions, bah, tout dépend. Alors, évidemment, elles se ressemblaient toutes dans les objets utilisés, mais les thèmes, les projets de recherche qui étaient menés étaient assez sensiblement différents selon les opérations et les pays. Donc ça a été très très varié, on a quand même, je crois, j'ai pas fait le compte exact, mais c'est au moins 400, on va dire 400 scientifiques qui ont participé à ces opérations, donc c'était très large et très vaste, avec beaucoup de thématiques abordées.
Autour de la question pourquoi le radeau des cimes et pourquoi justement faut-il monter en haut, au sommet de la canopée, pour étudier cette biodiversité, on l'a dit, inouïe, inédite et qui risque fort de disparaître avant même qu'on ne l'ait admirée. Je propose un nouvel éclairage, c'est celui de Cyril Daze. Alors lui, il est chercheur et grimpeur. Il est attaché au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, spécialiste des collemboles, ces petits insectes qu'il étudie et qu'il a aussi recherché dans une autre expédition du muséum sur les rescapés du Gondwana. Alors pourquoi Cyril Daze lui aussi monte au sommet des arbres pour étudier ces bestioles, ces collemboles qui vivent aussi au sol? Écoutez sa réponse.
C'est d'abord des bestioles effectivement qui vivent dans la litière, dans le sol, dans la matière
organique en décomposition, mais il se trouve que dans les arbres, il y a des sols suspendus. Imaginez une épiphyte, une orchidée par exemple, qui vit à la fourche d'un arbre, eh bien il y a un peu de sol entre ses racines, et là vous allez avoir toutes sortes de colamboles, mais il y a aussi les mousses, les lichens. Mes colamboles sont tellement petits que c'est des milieux très riches pour eux. Et on s'est rendu compte aussi que sur les feuilles, il y avait un certain nombre d'espèces de colamboles qui vivaient là-haut.
Là-haut, tout là-haut, Francis Allais, expliquez-nous comment justement interagit cette fantastique biodiversité. On parlait des colamboles, dans des insectes, des plantes, des lianes. Vous avez parlé de ces molécules volatiles. Enfin, il y a une interaction incroyable.
Ça ne vous aura pas échappé que les arbres, ça ne bouge pas. Donc, ils sont portés à vivre en symbiose avec la faune qui les entoure. Je vous donne un exemple. Vous connaissez les orties, n'est-ce pas ?
Oui, qui piquent.
Bon, les orties tropicales, les ancêtres tropicales de nos orties, ce sont des arbres qui piquent pas. Alors, il leur faut un moyen de défense. Mmh. Ces arbres-là embauchent des fourmis qui habitent à l'intérieur et qui défendent l'arbre contre ses attaquants.
Ce sont les fourmis qui
oui,
piquent et qui
alors,
attaquent les autres.
Ça remplace les aiguillons de nos orties. Mmh, mmh. Et quand j'essaye de cueillir un morceau, je m'aperçois que je regrette les orties.
Il vaut mieux les orties que les fourmis.
Eh bien oui, parce qu'elles se laissent tomber, ça fait comme une pluie. Et puis elles sont très motivées. Hein.
Et ces interactions, il y en a plein finalement, dans le vivant, entre végétaux, animaux, insectes.
C'est un monde d'interactions, la forêt. On commence à la découvrir sous cet angle-là. C'est, à mon avis, ce qu'il y a de plus passionnant.
Parmi toutes les expéditions, alors évidemment qu'il n'y en a pas de préférées plutôt que d'autres. Ça a beaucoup évolué au cours du temps. Est-ce que vous avez, Francis Allais, je sais pas, des forêts préférées, des arbres préférés, des lieux préférés, des expéditions ?
Non.
Et non.
Je vais vous répondre comme dans le temps, les marins. Mmh. Un dans chaque port.
C'est ça. Et quant à vous, Gilles Eversol, architecte de ce radeau des Cimes, qui avait donc participé, je crois, à toutes les expéditions du radeau des Cimes, est-ce qu'il y en a quelques-unes qui vous restent en mémoire plus que d'autres ?
Alors là, je vais vous faire une petite confidence. Le oui. grand expert de la préférence des missions, c'est en fait Olivier Pascal.
Oui,
le livre et ses articles relatent ça très bien. C'est Olivier qui a tenu un inventaire assez précis des missions et il les a classées selon ce type d'ordonnancement. C'est assez intéressant. Je pense que c'est à Olivier de répondre à la question.
Alors Olivier, répondez à ma question parce que c'est vrai que vous avez fait un inventaire personnel, vous dites, des exposition dans ce superbe ouvrage aux éditions Actes Sud, Le Radeau des Cimes. Allez-y, Olivier.
Oui, alors c'est tout à fait subjectif. Mm-hmm. Je suis d'accord avec Francis, mais c'est pas un dans chaque port. Pour moi, c'est une dans chaque port. Mais
On parle de je sais pas de quoi, mais je vous laisse continuer.
Elles avaient tout un caractère particulier. Après, évidemment, le ressenti de chacun. Moi, c'est vrai que je peux faire une liste avec un numéro 1 et un numéro 4, etc. Mais elles avaient toutes un caractère. Moi, j'ai beaucoup aimé le Cameroun parce qu'on était dans un endroit assez vivant. Évidemment, pas en termes de plantes et d'animaux, mais il y avait beaucoup de villages, il y avait des gens. Et c'était assez agréable de se mêler à tout ça. On a vécu des moments assez formidables. Et tout avait, oui, une particularité. Donc, c'est vrai que le Cameroun, pour moi, c'est un souvenir fantastique.
Peut-être le Laos ? Allez-y.
Le propos d'Olivier, c'est assez génial d'aller en Afrique de l'Ouest, parce que, en fait, c'est francophone. Mmh. Tout le monde ne parle pas français, bien sûr, mais on a des échanges avec les gens du pays qui sont beaucoup plus riches et extrêmement intéressants, tout simplement parce qu'on a quand même une vraie culture commune. Alors, c'est le cas aussi, évidemment, au Laos, où vraiment les anciens parlent encore français. Mais en Afrique, pour moi, les expériences humaines ont été, effectivement, comme le dit Olivier, particulièrement intéressante et enrichissante.
Donc, expérience humaine sur le continent africain. Oui, si je voulais m'arrêter un peu sur le Laos, c'est une des dernières expéditions, mais c'est aussi parce qu'elle était, comment dire, vous avez évolué vous aussi, et plus dans ces engins volants, plus durables, plus écologiques. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ? C'est une préoccupation aussi, Francis Allais ?
Bien sûr, et l'accueil du Laos m'a fait vraiment plaisir. J'aime beaucoup l'Asie, moi. J'y ai vécu longtemps et me retrouver dans une forêt laotienne, ça a été un très grand bonheur.
Yeah. Et pour vous, Gilles Ebersold, justement, pour la conception, ça a changé aussi au cours des années, ce radeau des cimes. Peut-être qu'il y avait, je ne sais pas, une question de moyens aussi ou une question de réflexion par rapport à comment améliorer à la fois l'atterrissage ou l'afforestissage, je ne sais pas comment on dit, de ce radeau des cimes.
Alors oui, parce que en fait, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que la particularité de ces missions, c'est qu'on accueille des chercheurs de toute nature. Donc évidemment, Francis parle de ses collègues scientifiques dans toutes les disciplines. Ben, il y avait aussi des chercheurs un peu particuliers. Et ben, c'était Dany, Clé-Marel et moi. En fait, tous les deux, on avait pour mission de chercher et d'expérimenter pendant les missions elles-mêmes les engins. Et d'essayer de les améliorer à chaque fois. Donc à chaque fois, on avait des nouvelles idées, Dany et moi, et on proposait...
Donc Dany, c'est le pilote de ces engins gonflables.
Dany, effectivement, lui, son domaine, c'est le ciel, c'est tout ce qui s'attache à ce qui vole. Et puis moi, finalement, mon domaine, c'est tout ce qui flotte sur la canopée. Mm-hmm. Donc pour ça, c'est vraiment une façon de collaborer très intéressante, d'être en contact tout en ayant chacun ses spécialités. Donc nous, pendant les missions, on faisait tourner les équipements, mais on réfléchissait aussi, et qu'est-ce qu'on ferait la fois d'après ? Donc on a développé des tas de dispositifs différents, et en fait, le radeau des cimes dont vous parlez, aujourd'hui, c'est un peu une antiquité, puisque la dernière fois que le radeau des cimes a été posé, c'est non pas en 2012, mais en fait en 2003, au Panama, vous voyez. Et en 2012, qu'on a posé sur la canopée, c'est un autre dispositif qui est très différent dans sa conception, c'est l'étoile des cimes.
Décrivez-nous cette étoile des cimes.
Alors, l'étoile des cimes, si vous voulez, ça repose sur un système radicalement différent, parce que le radeau des cimes, il est posé sur la canopée comme sur l'eau. Il flotte véritablement sur la canopée. Je crois que la terminologie est acceptable. L'étoile des cimes, c'est un autre système. D'abord, c'est quelque chose de beaucoup plus petit et qui n'est pas gonflable. Parce que, si vous voulez, les structures gonflables, elles ont un problème, c'est qu'elles se dégonflent. Alors, on passe quand même beaucoup de temps à maintenir ces dispositifs en place. Et là, j'ai travaillé avec d'autres techniques, notamment des systèmes de cannes, comme des grandes cannes à pêche en fibre de carbone. Et le dispositif étoile des cimes vient se planter dans la canopée et permet d'avoir une stabilité assurée par une partie qui descend au-dessous de la canopée. Vous voyez, donc c'est une autre façon de se positionner structurellement sur la canopée. On ne flotte pas, mais on vient s'incruster dans la canopée. Donc vous voyez que les terminologies viennent désigner la façon dont finalement on livre un accès privilégié à la canopée.
Ah oui, c'est vraiment de la recherche dans tous les sens, finalement. Autour de la question pourquoi remonter sur l'étoile des cimes dans les canopées des forêts équatoriales. Nouvelle question pour vous, à tous les trois, Francis Allais, Olivier et Gilles, soulevés, j'ai envie de dire depuis l'espace ou presque, par l'astrophysicien David Elbaz, en charge entre autres des instruments embarqués dans le futur James Webb télescope. David Elbaz était tout récemment notre invité pour son ouvrage sur les ruses de la lumière et témoin de la beauté de l'univers. Écoutez sa question. Elle est pour vous.
Alors j'ai une question à vous poser, c'est lorsqu'on a observé l'univers, on s'est rendu compte qu'il était peuplé de galaxies qui semblent séparées les unes des autres, et puis on se rend compte que c'est impossible de les comprendre si on ne prend pas en considération toutes les connexions qui les relient. J'ai appris, me semble-t-il, que lorsqu'on regarde une forêt, on croit voir des arbres, mais en réalité on voit un seul système où tout est interconnecté par leurs racines. Est-ce que dans vos observations, vous vous rendez compte qu'il est fondamental de prendre en compte le biosystème global et de ne pas succomber peut-être à la tentation de séparer les arbres ou telle plante, ou bien au contraire, il existe une individualité des plantes ?
Francis Allais, que pouvez-vous répondre à David
Elbaz ? Il a raison, cet astrophysicien. On est devant quelque chose, il est devant quelque chose qui rappelle notre forêt. Mm-hmm. Tout est en interconnexion. C'est pas seulement par les racines, c'est aussi par les animaux qui font la connexion entre les plantes.
Et qui plantent les graines et qui
pollinisent les graines. Les fleurs et qui dit voilà, je crois pas qu'il est l'équivalent en astronomie.
Mais en même temps, ça veut dire aussi que les arbres sont aussi des individus. Enfin,
non,
c'est pas des individus. C'est vraiment un collectif en interaction. C'est un ensemble,
non,
un
c'est
écosystème.
Des colonies. Bon, enfin bon.
Francis, allez, je veux vous entendre là-dessus.
Un individu, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas diviser en deux parties égales sans le tuer. comme vous et moi. Mais un arbre, vous pouvez le diviser. Si vous me donnez un sécateur, je vous en fais des millions, tous vivants. Donc c'est divisible. Donc, ce n'est pas des individus, c'est des colonies. Voilà.
Et ça, vous l'avez compris très vite, en montant, alors même avant le radeau ou l'étoile des
cieux. Oui, mais on a confirmé ce caractère de colonie depuis la canopée. C'était évidemment bien, bien plus favorable que depuis le sol.
Et voilà pourquoi c'est encore mieux de l'étudier là-haut. Olivier Pascal, vous qui avez monté aussi pas mal d'expéditions, vous aussi, vous diriez qu'il faut prendre en compte l'écosystème dans son ensemble, enfin les connexions et les interconnexions multiples.
Oui, je suis d'accord. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très terre-à-terre. On fait ce qu'on peut, Madame Lachowski. Très souvent, on est obligé de zoomer. Alors évidemment, si on a la chance de pouvoir faire des projets qui s'intéressent au global, avec tous les moyens que ça implique, c'est formidable. Mais je pense que zoomer sur un seul, entre guillemets, individu d'arbre, donc une colonie, comme le dit Francis, c'est tout aussi intéressant, et de rentrer dans un monde, on va dire peut-être plus étroit, mais à une autre échelle. Donc effectivement, changer d'échelle, c'est pas mauvais non plus, hein.
C'est ça, il faut pouvoir se balader à plusieurs échelles, hein, c'est ça. Vous êtes d'accord, vous qui avez vu tous ces botanistes, ces spécialistes des arbres travailler dans la canopée, Gilles Ebersolt?
Oui, alors là, moi je rebondirais sur le changement d'échelle. En tant qu'architecte, si vous voulez, c'est l'objectif premier. Donc vous devez avoir un regard global. Quand vous travaillez sur un bâtiment, sur sa fonction, ses formes, etc. Mais vous devez savoir zoomer aussi et travailler sur le moindre détail. Donc je dirais que cet aspect échelle est particulièrement intéressant. Donc nous, on travaille beaucoup, effectivement, sur les notions d'échelle et d'essayer de comprendre, depuis la petite jusqu'à la grande échelle, comment tout ça fonctionne, que ce soit des choses naturelles ou des éléments construits par l'humain.
Francis, allez-vous aussi vous travailler à toutes les échelles? Parce que quand vous dessinez les arbres, depuis la canopée ou depuis ailleurs, vous dessinez les feuilles, vous dessinez... Enfin, c'est vraiment... vous allez jusqu'au plus petit et dans les deux sens.
Je voudrais dire un mot sur la beauté de tout ça.
Ah oui, je veux bien.
La beauté est essentielle. D'ailleurs, je le regrette vivement, elle est totalement absente de tous les ouvrages qui décrivent les forêts, la biologie, la botanique, la zoologie. Il n'y a pas un mot sur la beauté. Or, elle apparaît à toutes les échelles. Depuis l'ensemble forestier jusqu'aux coupes microscopiques et aux analyses les plus fines, la beauté est là. Et donc c'est ça que j'essaye de dessiner et je tiens beaucoup à cette idée de beauté. Voilà.
Et si vous dessiniez pour nous à la radio un petit morceau de forêt tropicale vu depuis la canopée?
Dessiner à la radio?
Oui, c'est-à-dire avec des mots.
Non.
C'est pas possible. Hein.
Non, pas pour moi.
Mais on peut parler de la beauté, là, ça
marche.
Ah
ben oui, bien entendu. C'est la première chose que vous voyez, la beauté. Entre une forêt primaire et une forêt secondaire, ce qui apparaît immédiatement, c'est la beauté. Quand je vais dans la forêt polonaise de Białowieża, immédiatement, en arrivant là, je me dis, mais c'est extraordinairement beau. Si je vous parle de biodiversité, il va falloir faire des inventaires pendant des années. Tandis que la beauté, elle apparaît immédiatement. C'est ça que j'aime bien.
Gilles Ebersolt, sur la beauté aussi, peut-être?
Oui, mais la beauté, on peut aussi l'écouter. Hein. On parlait tout à l'heure du son. Moi, je voulais apporter une petite contribution sur cette notion sonore. Effectivement, il y a tous ces bruits qui viennent de la nature, tous ces sons émis par ces insectes, notamment. Voilà. Mais surtout, il y a la direction du son. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le radeau, quand vous êtes dans la canopée, eh bien, le son, il vient du dessous. Et ça, c'est une sensation extrêmement étrange. C'est d'avoir le son qui monte depuis, en fait, le sol artificiel qui sont tout simplement les filets du radeau des cimes ou de l'étoile des cimes. Donc on a l'impression que le son vient du dessous, et enfin c'est pas une impression, c'est une réalité, le son monte et vous êtes là comme un petit peu assis sur un gigantesque haut-parleur dirigé vers le ciel, et ça c'est d'une très grande beauté, c'est le spectacle de la nuit sur le radeau des cimes. Donc je fais beaucoup de publicité pour ça, parce que c'est vraiment des très très grands moments qu'on a partagés du reste avec Francis, tout en chantant aussi des chants marins, puisque Francis et moi nous sommes l'un et l'autre marins et on aime beaucoup partager nos soirées sur le radeau en faisant des chants marins.
Voilà. Bon, je ne vais pas vous faire chanter des chants marins à tous les deux, quoique j'en ai un peu envie, mais on va jouer qu'on est effectivement là-haut, dans le radeau des cimes, dans l'étoile des cimes, et que le son nous vient d'en bas, avec des haut-parleurs géants. On va ouvrir grand nos oreilles pour écouter ce très joli morceau signé du grand Pierre Akendengue, « Ma forêt ».
La forêt, c'est le livre qui me livre à moi le bien,
de mal.
La forêt.
La forêt, c'est le livre qui te livre à toi des sursauts vitaux. La pharmacie, bon Dieu.
Ma forêt, oh bon Dieu. Ma forêt, oh bon Dieu.
Vivre près de la nature, de la matière, des fruits, des fleurs.
Ma forêt.
Oiseaux, fées, primates et petits poissons dans l'eau, la clé du bonheur.
Ma forêt, oh
ma forêt.
Ma forêt.
C'est un forêt, la pharmacie du bon Dieu.
Ma forêt, oh bon Dieu, ma forêt, oh bon Dieu.
On veut faire de ma forêt une poubelle, c'est pas normal. Pollueur d'eau, passeur de fléau, c'est immoral.
Celle de Pierre Akendangé au Gabon, la pharmacie du bon Dieu. Vous l'avez exploré, vu d'en haut, depuis la canopée, dans ce radeau des cimes, Francis Allais, Olivier Pascal, Gilles Ebersold, autour de la question pourquoi remonter sur le radeau des cimes. Et pourquoi pas, finalement? C'est précisément ce que vous demande un autre chercheur explorateur, Christian Clot, qui vient, lui, de passer 40 jours sous terre, hors du temps, pour une expérience collective sur les limites de l'adaptation humaine. Il a évidemment une question pour vous, on l'écoute.
Bonjour. D'abord, à titre personnel, j'ai toujours été fasciné par cette aventure extraordinaire, cet imaginaire que vous avez eu les uns et les autres pour construire ce radeau. Est-ce qu'aujourd'hui, vous auriez envie de recréer des nouveaux radeaux et de repartir sur le terrain tel que vous l'avez fait il y a 30 ans ?
Qui va commencer pour répondre à cette question ? Est-ce qu'on pourrait repartir sur un radeau, une étoile des cimes ?
Je vais vous donner mon avis.
Oui.
Ce qu'on a fait sur les canopées, c'est minime. C'est un pour mille, voilà. Donc il faut continuer. Et je voudrais préciser qu'il y a des ressources extrêmement importantes en molécules et en gènes. Donc ça va repartir, c'est sûr. Maintenant, je ne sais pas dans quel pays ni avec quel groupe, mais je suis certain que ça va repartir. J'ai une autre conviction, c'est que ceux qui repartiront, ils vont faire appel aux techniques mises au point par Gilles et Dany. Parce que on a essuyé les plâtres, nous, on était les premiers. Alors s'ils repartent avec des hélicoptères ou des engins comme ça, ça ne va pas marcher du tout. Ils vont devoir utiliser les engins qu'on a faits.
Gilles Ebersold, vous allez donner des conseils, j'imagine, parce qu'on se dit pourquoi ça ne repart pas. Enfin, ce n'est pas possible que ça arrête une aventure pareille qui, comme vient le dire Francis Allais, n'a fait que effleurer, si j'ose dire, la canopée.
Le potentiel est gigantesque, bien sûr. Et en plus, c'est un peu urgent parce que, effectivement, ces forêts sont menacées. Puis nous, on a observé ce péril de façon très triviale, Olivier, Dany, Francis et moi. C'est que quand on est invité à faire des explorations sur des pays tropicaux pour organiser une expédition scientifique, eh ben, on a beaucoup de mal à trouver des forêts un peu près accessibles, c'est-à-dire accessibles avec des moyens juste raisonnables. Et ça, c'est peut-être une façon de dire aussi que pour explorer la canopée, il faut des moyens et des facilités pour voyager. Alors ça, ça a été très difficile ces dernières années.
Bien
on a on a malheureusement, avec ce qui s'est passé
pandémie.
Avec le Covid, perdu des opportunités exceptionnelles. Donc moi, je reste comme Francis optimiste en me disant qu'il y aura sûrement de nouvelles opportunités. Et peut-être d'autres équipes aussi, parce qu'on n'a pas le monopole de l'exploration des canopées, ça c'est clair.
Mais vous êtes d'accord pour refiler toutes vos expériences, vos tuyaux, vos idées, les vôtres et celles de Dany, évidemment, à ceux qui voudraient recommencer, renouveler, refaire une aventure type radeau des cimes.
Ah oui, parce que là, il faut mutualiser les moyens, il faut mutualiser les connaissances. Hein, je veux dire, c'est dans le monde scientifique, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on trouve des choses, on les publie, on signe. Et ça fonctionne. Et dans le domaine technique, ça, c'est la même chose. Voilà, il faut collaborer, il faut rendre possible toutes ces choses. Nous, on ne demande pas mieux que d'apporter notre expertise à tous ceux qui voudront bien s'y intéresser, bien sûr. Donc, bienvenue à tous.
Olivier Pascal, vous qui montez, vous qui organisez des expéditions naturalistes, comment faire pour remonter sur un genre de radodécime pour continuer ces expéditions merveilleuses et qui nous montre la beauté aussi.
Bah, comment faire ? En tout cas, moi, je ne compte pas m'arrêter, ça c'est sûr.
Ah, ça c'est bien.
Voilà, donc j'ai pas du tout l'intention d'arrêter ça, c'est trop satisfaisant à plein de niveaux. Donc bah, comment faire ? Il faut juste être un petit peu patient. La patience est un des ingrédients indispensables dans ce genre d'opération. Attendre le bon moment, et puis voilà, moi je pense que tout ça va continuer. Et comme le souligne Gilles et Francis également, il y a urgence à s'y intéresser, avec bien sûr de plus en plus de difficultés pour accéder aux petits morceaux de forêt intacts qui restent sur notre planète.
Francis Allais, si vous aviez envie d'y retourner, ou si quelqu'un de plus jeune venait vous voir et vous disait où aller dans ces forêts tropicales qui s'amenuisent, ce serait quoi la prochaine destination ?
Écoutez, tous les continents restent intéressants. C'est un peu des confettis, en effet, mais précisément parce qu'il n'en reste pas beaucoup, c'est le moment de s'y précipiter. Alors, l'Afrique, bien entendu, l'Amérique tropicale aussi, l'Asie et la Mélanésie, je pense notamment à la Nouvelle-Guinée, la Papouasie, etc., ouais. Tous ces trucs-là, il n'y a presque rien qui a été fait.
Donc il y a tout à faire, avis oui. Aux amateurs. Hein. En tout cas, je cite cet ouvrage qui est vraiment une bible, une mine d'or et qui est magnifique. Le Radeau des Cimes, 30 années d'exploration des canopées forestières équatoriales, paru aux éditions Actes Sud et signé donc d'Annie Cléier-Marel, Gilles Bersold, Francis Allais, Olivier Pascal. Merci Francis Allais d'être venu dans notre studio. C'est un grand plaisir. Vous revenez quand vous voulez nous parler de vos arbres et des forêts primaires sur lesquelles vous travaillez, sur lesquelles vous montez de nombreux projets. En Europe. Merci à Gilles Bersold qui est depuis Limoges en duplex. Merci Gilles.
Merci Caroline de cette invitation.
Et merci à la technique, ça c'est dans les studios de France Bleu Limousin, à Jérôme Besset. Merci également Olivier Pascal, à bientôt pour d'autres expéditions.
À bientôt, je retourne à 7, là, il fait trop beau là-bas.
Eh bien, bon retour à 7 et on remercie quand même la technique de France Bleu Hérault à Montpellier. Merci à vous et l'invitation vaut pour toute l'année à venir. De la question, dernière semaine de rediffusion estivale à suivre lundi avec d'émouvantes pépites et du beau monde. Marie Corsaga, la première astrophysicienne d'Afrique de l'Ouest, un dernier hommage à notre préhistorien préféré Yves Coppens et une émission spéciale comment réparer les vivants autour des prothèses qui ont fait notre humanité. Avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses, Caroline Lachowski au micro pour vous servir, surtout restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles, à l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.